et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débat Amcamgram. Alors, pour rappel, on est là pour aborder des sujets transverses, en lien bien sûr avec l'account management. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode truc et astuces pour savoir comment on fait pour jongler entre les différents interlocuteurs, les fameux personas. Parce que voilà, aujourd'hui, on ne va pas faire dans la facilité. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Chloé et de Raphaël, qui sont deux spécialistes du secteur du retail. Voilà, vous avez compris, on va parler du retail, qui est un secteur particulièrement opaque et assez challengeant pour le coup, vu la diversité des acteurs qui le composent. Donc, au cours de cet épisode, on va parler des différents personas qu'un AM adresse dans le secteur du retail, les méthodes pour s'adapter justement à leur vocabulaire, à leurs objectifs. On verra aussi le secret d'un bon mapping de compte. Et on va aussi se demander s'il est possible d'automatiser ces échanges une fois qu'on connaît la recette globale. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Présentez-vous, messieurs, dames.
Du coup, moi, c'est Chloé, j'ai 26 ans. J'ai d'abord commencé mon parcours dans la communication, puisque j'ai été chef de projet événementiel chez Vipi. Et ensuite, j'ai basculé vers l'account management au sein de la régie publicitaire intégrée de Vipi, où je travaillais en fait pour vendre des espaces publicitaires et du média à différentes marques. Donc là, pareil, les interlocuteurs, ça a été vraiment très, très différent parce que quand on travaille, que ce soit en événementiel ou même en account management, on s'adresse à différentes personnes au niveau du média. Ça peut être des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, des traffic managers, d'où l'utilité finalement de les connaître et de savoir s'adapter à leurs différents profils.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ta formation aussi avant d'en arriver là?
Alors moi, j'ai fait une licence Infocom dans une fac à Angers. Et ensuite, j'ai fait un master dans une école de communication qui s'appelle Sup de Pub à Paris.
Top. Et ma petite question rituelle, Chloé, quel est ton plat préféré?
Mon plat préféré, c'est dur. C'est dur, il y a trop de choses que j'aime. Mais je vais dire la galette parce que je suis bretonne.
Ah ouais, j'ai cru que tu allais dire la galette des rois, où je me suis dit, ah ouais, t'as un peu d'avance.
Non, la galette de sarrasin.
Trop cool. Bon, bah, merci beaucoup, Chloé. Et ben Raphaël, à toi la parole.
Donc, bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 39 ans. Mes dernières expériences professionnelles étaient au sein de deux entreprises. La première, c'était Dolmen Technologies, et la seconde, c'était SoClose. Mes actions dans ces deux sociétés étaient sur la partie business development et également sur la partie gestion de projet dans l'univers de la collecte et l'activation de data, ainsi que des solutions omnicanal et avec des services comme on peut connaître, qu'on voit beaucoup sur le net, du click and collect, du click and reserve, du stock unifié. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus de trois ans et demi dans ces deux sociétés. Et les interlocuteurs avec lesquels j'avais l'habitude d'échanger étaient du responsable marketing digital, des responsables data et CRM, des DPO, donc les personnes qui gèrent les données, qui l'interprètent également, des équipes au niveau de la DSI aussi souvent, quand on avance sur des projets de clients, la DSI rentrait à 90% dans le processus de vente et dans le processus du projet, des responsables e-commerce et ainsi de suite. Moi, je travaille dans le retail depuis plusieurs années et là, c'est vrai que sur ces trois années et demie, j'ai pu travailler avec des enseignes comme Monoprix, Boulangerie Ange, Système U, mais aussi pas que dans le retail, par exemple dans le secteur bancaire avec le CIC Banque et voilà.
Et en termes de parcours, de formation?
Moi, j'ai un parcours très commerce. J'ai un BTS Action Co. Et ensuite, j'ai fait une licence en éco-gestion. Et après, je me suis formé sur le tas avec des formations à distance. Et je reprends mes études avec un master en chefferie de projet dans les prochains jours.
Waouh, mais c'est trop bien! Félicitations!
Merci.
Ça dure combien de temps cette formation à distance?
Ça dure une année.
Ah ouais, bon bah je sens que tu vas être dans le jus, donc merci de nous accorder ton temps. Et du coup, toi Raphaël, ton plat préféré, quel est-il?
Ah, c'est pas évident. Je dirais la tartiflette. Je ne suis pas savoyard du tout, mais je dirais la tartiflette.
Bon, un bon plat d'hiver, c'est bien.
Un bon plat d'hiver.
C'est à propos. Top.
C'est ça.
Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Donc, effectivement, là, on a bien noté que dans le secteur du retail, chacun de votre côté, vous avez eu affaire à des interlocuteurs très variés. Vous nous les avez listés au moment de votre présentation. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, comment, en tant qu'account manager au sens large, est-ce qu'on fait pour jongler avec cette multiplicité d'interlocuteurs différents? Parce qu'on a parlé voilà, de DSI, on a parlé de directeur marketing. Enfin, je veux dire, c'est des profils qui sont des fois à 360 degrés les uns des autres. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour bien segmenter les personnes dans sa tête et puis sortir les arguments au bon moment et à la bonne personne, quoi?
Moi, je dirais qu'il faut d'abord cerner finalement la personne qu'on a en face en fonction du métier que la personne fait, s'il est directeur marketing, s'il est directeur commercial, on ne va pas s'adresser à lui de la même manière. Je prends toujours l'exemple des directeurs commerciaux qui sont des gens qui ont pour objectif de la rentabilité. Donc, pour le coup, ces personnes-là, on va devoir leur parler chiffres, on va devoir leur donner des KPI versus, par exemple, un directeur de communication où là, c'est plutôt peut-être la créativité, tout ce qu'on va faire autour de la marque et ce qu'on va faire pour la valoriser qui va plus l'intéresser. Et donc, c'est en ça qu'il faut bien cerner la personne à laquelle on parle pour adapter son discours et être le plus impactant possible.
Genre quoi, quali versus quanti un peu?
Moi, je dirais ça. Par exemple, chez VP, quand je vendais du média, un directeur de la communication, ce que j'allais lui vendre, c'est plutôt un dispositif disruptif, quelque chose qu'il ne peut pas faire sur un autre média. C'est la mise en valeur de sa marque, comment on va faire rayonner sa marque. Alors qu'un directeur commercial, je vais plutôt aller sur des données factuelles de « ça va vous rapporter tant, on peut imaginer ça, c'est tel investissement ». Et donc, c'est des données un petit peu différentes.
Moi, l'exemple que je vais citer, c'était quand je travaillais pour Dolmen Technologies. On a, au niveau de l'équipe account manager, on avait, on va dire, catégorisé nos clients, même si ce n'était pas tout à fait le terme, mais selon le type de profil et le type d'interlocuteur, on pouvait avoir un discours plus tourné sur la partie ROI et KPI quand c'était des responsables marketing digitaux, et quand c'était sur la partie technique, avoir avec des équipes au niveau de la DSI, avoir un discours plus technique et s'appuyer éventuellement avec un collaborateur ou une personne de notre équipe technique. L'idée, c'était vraiment d'avoir un discours très chiffré et très, très métier, on va dire, pour les responsables marketing digitaux, et à contrario, sur la partie DSI, avoir un discours plus technique, plus sur l'outil, comment on peut l'intégrer chez eux. Donc pour moi, c'est important en fait, d'avoir une double casquette et de pouvoir maîtriser différentes solutions ou différents discours par rapport à ces profils.
Ouais, mais c'est intéressant que tu dises que tu t'appuies sur d'autres personnes parce que j'imagine qu'on ne peut pas être et spécialiste en produit, en technique, en KPI, en créa. Enfin, c'est impossible.
Ouais, tout à fait, tout à fait. En l'occurrence, moi, ça, j'ai un exemple à citer. Monoprix, j'ai travaillé pendant plusieurs mois chez eux pour un projet. Et au départ, j'avais responsable innovation, responsable marketing, responsable e-commerce. Donc, c'est des gens que j'avais l'habitude de voir dans d'autres enseignes. Et après, quand ça a basculé, quand on a avancé sur le projet, là, j'ai eu affaire à la DSI et aussi à des prestataires des ESN. Il y avait entre autres Capgemini. Et là, il y a besoin de muscler le discours. Et donc, au départ, je me suis fait accompagner d'une personne plus technique. L'intérêt, c'est que vous montez en compétences et vous gagnez en crédibilité, puis aussi, ça vous permet d'avoir un vernis technique. Et au fur et à mesure des projets, des rendez-vous et des échanges avec les clients, bah, vous commencez à être plus à l'aise et à ce moment-là, vous avez peut-être moins besoin d'être accompagné.
Et là, la personne qui t'a formé, c'est une personne qui était un de tes collègues.
C'est un de mes collègues qui était lui sur la partie développement informatique de la solution Dolmen et qui avait le bagage au niveau informatique et connaissances pour m'accompagner et monter en compétences et aussi avoir gagné en crédibilité pendant le rendez-vous.
Ouais, mais c'est clé ça. Je sais pas toi, Chloé, si tu avais eu aussi une formation en amont.
Alors, je n'ai pas eu vraiment de formation à proprement parler. Finalement, moi, j'ai beaucoup appris sur le tas et au contact de mes collègues qui, au début, parce que je venais du milieu de la communication, m'ont accompagnée dans des rendez-vous pour que je puisse finalement voir un peu comment ça se passait et m'imprégner de leur discours. Et donc, en fait, c'est à leur contact que j'ai appris à différencier les discours en fonction des interlocuteurs que j'avais, mais pas de formation à proprement parler comme Raphaël.
Il y a de nombreuses sociétés aujourd'hui qui commencent ou qui sont dans cette attitude-là où la force de vente, les account managers sont formés régulièrement sur l'évolution des outils, des services, et aussi il y a de plus en plus d'échanges entre les services techniques et c'est la partie account manager, ça devient aujourd'hui vraiment, vraiment important pour déjà aller dans le même sens. Puis au final, ça aide aussi la partie, le service technique à mieux comprendre les besoins des clients.
Oui, complètement, complètement. Et donc ça, c'est important. On a vu effectivement cette partie cerner ses interlocuteurs, bien les identifier en fonction de leur intitulé de poste. Maintenant que on connaît les grandes familles en fait, d'interlocuteurs, comment vous allez faire pour vous renseigner sur la personne avec laquelle vous allez échanger ?
Alors déjà, moi, personnellement, en amont du rendez-vous, LinkedIn, je trouve que c'est l'outil le plus pertinent. Il y a tellement d'informations à aller chercher, que ce soit sur les différents postes qui ont été exercés par la personne, voir quel type d'article, si on le peut, il est en train de partager. Déjà, ça nous donne un peu une vision de la personne à laquelle on va s'adresser. Et une fois qu'on arrive au rendez-vous, moi, ce que je trouve clé, c'est finalement la phase de découverte où là, on va être directement finalement dans une discussion avec notre interlocuteur, où on va s'intéresser à ses projets, à son poste, à son entreprise, à ses objectifs, pour derrière mieux comprendre pourquoi il nous a sollicité ou alors ce qu'on va pouvoir lui apporter derrière. Et cette phase de découverte, c'est en ça qu'elle est très importante. Elle permet déjà de tisser un lien avec la personne et derrière de pouvoir proposer des solutions qui soient totalement adaptées et donc plus pertinentes. Et voilà. Et ensuite, après cette phase de découverte, ce qui est intéressant, c'est de continuer à se renseigner sur la personne toujours en continu pour avoir d'autres leviers, connaître un peu ses hobbies pour qu'on puisse le fidéliser et derrière tisser une vraie relation avec le client.
Je rejoins Chloé sur la partie discussion après avoir entre guillemets après s'être renseigné sur le ou les profils. Je pense que c'est très important de créer du lien sur ces premiers échanges. Et moi, je rajouterais le fait de regarder si on n'a pas des connaissances en commun, si on n'a pas travaillé dans le même secteur d'activité ou dans la même société, si on n'a pas fait les mêmes écoles aussi, ça peut créer du lien. Je pense qu'il faut partir aussi du principe que faut pas se dire à tout prix je vais fournir un nouveau service, je vais intégrer un nouveau service ou un nouveau produit à ce client. Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment un échange pour comprendre les problématiques et qu'est-ce qu'on peut lui apporter ou pas d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut être sincère et assez honnête.
Ok, donc là, si je comprends bien, pour pouvoir cerner parfaitement la personne que vous avez en face de vous, en plus de connaître son intitulé de poste et d'avoir quand même une petite idée sur son champ lexical, on va dire, vous allez vous renseigner sur la personne grâce notamment à LinkedIn et essayer de détecter des points communs pour avoir peut-être un sujet de conversation d'accroche finalement et pas que le travail et...
Tout à fait, ouais. Ça peut aider à, voilà, à aborder le rendez-vous de manière un peu plus simple et plus amicale aussi.
Complètement.
Et aborder une personne par ses hobbies, est-ce que vous trouvez que ça fait antiprofessionnel ou pas ?
Tout dépend de la personne à laquelle on s'adresse. Par exemple, si on s'adresse à quelqu'un qui travaille pour une marque de golf et que nous-mêmes, on est spécialiste et que ça paraît logique de partir sur ce type de hobby et qu'on se rend compte que notre interlocuteur, il est lui aussi passionné, pourquoi pas ? En fait, je pense que là, il y a une vraie question de feeling aussi. On envisage toujours un rendez-vous d'une certaine façon. Une fois qu'on est devant la personne, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Et si on se sent capable d'aller sur un sujet qui paraît de prime abord peut-être moins professionnel, il faut pas hésiter à faire confiance à son instinct.
Je rejoins aussi Chloé sur la partie feeling. Moi, j'ai eu le cas pour le CIC Bank où mon interlocuteur direct avec lequel j'ai bossé de nombreux mois était plutôt passionné par le tennis. J'en ai fait aussi, donc ça tombait bien. Après, je pense qu'il faut pas non plus, si on maîtrise pas le sujet, vaut mieux pas trop y aller non plus, parce que si en face de vous, vous avez quelqu'un, un vrai passionné, ça peut faire aussi un peu un flop.
Ça peut décrédibiliser la relation perso et pro.
Tout à fait.
Complètement.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc là, j'ai bien noté vos techniques pour bien se renseigner sur vos interlocuteurs, mais ça, j'imagine que ça doit prendre du temps. Et je me dis, à l'échelle d'un account manager, est-ce que ces techniques-là, elles s'appliquent seulement pour un petit portefeuille client ? Parce que si vous voulez, quand j'ai une centaine, voire plus de clients dans mon portefeuille, ok, c'est pas une mauvaise volonté. C'est pas que je vais aller sur le LinkedIn de chacun d'eux. Et encore qu'il y a des professions qui vont pas forcément utiliser ce réseau social professionnel. Donc, c'est une barrière en plus. C'est pas un manque de curiosité de ma part, mais je me dis comment est-ce que je peux scaler ça. Enfin, c'est impossible de se renseigner parfaitement sur ses interlocuteurs. Je vais avoir plus tendance à me dire, lui, il est DSI, allez, je vais lui parler comme à tous les autres DSI.
Le truc, c'est qu'effectivement, ça demande énormément de temps. Après, il faut aussi, je suppose, garder ça enfin, classer ça par priorité. C'est-à-dire que on va avoir des clients qui sont, surtout dans des périodes de business development, des clients qui sont déjà acquis. Donc, on les connaît, on connaît déjà peut-être un peu leurs hobbies, on les a déjà rencontrés en rendez-vous. Donc, ceux-là, on les rétrograde, entre guillemets, d'un côté où ils sont acquis, où il faut continuer la relation client, mais où on a moins besoin d'être tout le temps à l'affût de la nouveauté, de ce qui sort au niveau marque et de moyens de les attraper. Et après, on va avoir tous les comptes qu'on souhaite avoir et qu'on n'a pas encore. Et c'est sur cela, à mon sens, qu'il faut mettre le plus d'efforts sur la connaissance parfaite de qui ils sont pour pouvoir vraiment réussir à signer un contrat ou quelque chose.
Parce que là, je précise, toi, Chloé, que dans ta fonction de Key Account Manager, tu faisais aussi de l'acquisition. Ce qui n'est pas le cas pour tous les account managers. Je préfère redire un petit peu le contexte.
J'avais effectivement un portefeuille de clients qui revenaient la plupart du temps. Et après, de prospects qu'il fallait aller chercher pour dégager de nouveaux business, quoi.
Et si je regarde sur les clients que tu as en portefeuille, comment est-ce que tu fais justement pour les connaître chacun d'entre eux et leur parler le plus efficacement possible ?
Alors moi, ce que j'aimais faire, c'est déjà garder le lien avec eux. Dès qu'on voit une petite actualité passer, sans forcément chercher, c'est un petit envoi de mail, un petit coup de fil. Essayer aussi de garder le lien, c'est-à-dire qu'après chaque opération, là c'est toujours dans la mesure du possible en fonction du nombre d'opérations qu'on peut avoir avec un client, mais c'est organiser un déjeuner pour débriefer de l'opération, parce qu'un déjeuner, c'est toujours un peu plus informel qu'une réunion dans une salle. Et c'est vrai que ça permet à tout le monde de se détendre et d'être sur quelque chose de plus friendly, si je peux dire. Et voilà, donc c'est finalement essayer de fidéliser la marque en continuant à s'intéresser à elle, même si on est moins dans le push comparé à un prospect.
Ok, mais là, encore une fois, ça s'applique uniquement si tu as un petit portefeuille client. Tu ne vas pas avoir 200 convives autour de la table.
Alors, non. Mais après, ça dépend de ce qu'on entend par petit portefeuille client. Effectivement, après, il faut prioriser les comptes. Quand on a des top clients où on fait énormément d'argent avec eux à l'année, évidemment que c'est ceux-là qu'il faut chouchouter en priorité. Et après, celui qui nous fera une opération à l'année, eh ben, si il y a de choisir en termes de temps, ce sera peut-être là-dessus qu'on fera le tri.
Il y a une question nous, on fonctionnait avec ce qu'on appelle du 20-80, c'est-à-dire que les top clients étaient quand même plus... Voilà, il y avait plus d'échanges avec eux, plus de points, il y avait plusieurs points chaque année, alors que les plus petits, il y en avait un peu moins. Mais tout à l'heure, Daria, tu parlais 800 ou 200 clients. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un bon compte manager, selon le secteur d'activité, selon la solution, s'il a 100 ou 200 clients à gérer, c'est pas bon. Aujourd'hui je pense que 50-60 clients dans un portefeuille à gérer, c'est déjà très très bien, et si c'est bien fait, ça peut rapporter de l'argent, alors que si on en a 100 ou 200, on est un peu de partout et on a plus du mal à gérer. Donc moi, on fonctionnait quand même en 20-80, mais on avait un système de planning avec des échanges réguliers avec tous les clients pour avancer sur des pistes de business supplémentaires. En effet, c'était plus régulier sur les plus gros clients, mais on avait quand même des points avec les petits.
Et c'est vrai que je rejoins Raphaël là-dessus, c'est que le métier d'account manager, ça reste de l'humain avant tout. Et en fait, si on n'arrive pas, on est obligé d'être vraiment automatique en termes d'échange avec certains comptes, et qu'on ne peut pas prendre le temps de finalement garder la relation avec le client, c'est là que ça devient dangereux et où on n'est plus dans la fidélisation et dans le conseil.
J'ai l'exemple chez Dolmen, les portefeuilles étaient parfois trop gros à certaines périodes, il y a eu des changements de stratégie, et à contrario chez SoClose, les portefeuilles sont 50-60 clients. Ben, c'est des clients qui sont régulièrement recontactés, qui ont des points de manière mensuelle, et où on peut avancer sur des mises en place de nouveaux services. C'est des clients qui sont satisfaits.
Non, je suis totalement d'accord avec ce principe, et c'est sûr que c'est plus facile d'avoir des contacts réguliers avec les mêmes personnes, et je suis encore d'accord sur la question du métier qui tourne autour de l'humain. Maintenant, la réalité des choses fait qu'effectivement, il y a plusieurs account managers qui ont des portefeuilles gros, voire trop gros. Et du coup, moi, j'ai bien noté vos astuces pour identifier des interlocuteurs un par un, ou du moins en priorisant justement les top clients, le 20-80, les clients de longue date avec lesquels on pourra facilement refaire une opération. Donc ça, c'est hyper clair. Maintenant, pour les autres clients, entre guillemets, même si... On sait qu'ils appartiennent à une case, entre guillemets, à une famille d'interlocuteurs. Est-ce qu'on a la possibilité d'automatiser ces échanges ou pas, en fonction des différents personas?
Je pense que dans une moindre mesure, on peut, comme on le fait par exemple avec des présentations secteurs type mode, maison, parce que forcément, tous les secteurs ne sont pas les mêmes, donc on se doit d'adapter notre discours en fonction de... du secteur dans lequel notre interlocuteur travaille. Peut-être qu'on peut déjà automatiser ce type de choses avec des présentations adaptées au type de métier auquel on s'adresse pour gagner du temps et être sûr qu'on soit le plus impactant possible lorsqu'on est en rendez-vous.
Tu penses à quoi, par exemple, comme type de présentation?
Bah, je pense par exemple des présentations de nouveaux produits, de nouveaux services qu'on a à proposer. Par exemple, si on s'adresse à un directeur de communication, on va essayer d'avoir plus de visuels, d'avoir peut-être plus d'exemples créatifs à lui montrer pour qu'il puisse tout de suite visualiser ce qu'il peut faire avec sa marque. Et si on s'adresse à un traffic manager, avoir la même présentation, mais avec du coup beaucoup plus de chiffres, des choses qui soient beaucoup plus concises et claires pour lui et qui puisse pour le coup vraiment lui voir ce que ça va lui rapporter en termes de trafic, etc., etc.
Ouais, des guidelines en fait au moment où vous faites vos présentations en fonction de la personne à qui vous allez la dérouler.
Et donc d'adapter finalement la présentation, pas simplement au secteur, mais aussi au type de profil auquel on s'adresse.
Ouais. Mais c'est vrai qu'avoir des use cases par secteur d'activité ou des cas clients envoyés pour les, entre guillemets, les clients qu'on échange un petit peu moins, ça permet à ceux-là de pouvoir voir ce qu'on fait avec d'autres clients, avec peut-être même des concurrents. Donc je pense que c'est important de mettre en place voilà, ou d'automatiser des petites newsletters, des petits mails avec les bonnes approches et aussi ce que font les concurrents pour essayer de bah, que ça soit eux qui viennent vers nous en disant bah, hey, vous m'avez envoyé ça, ça m'intéresse de tester, et ainsi de suite. Donc, des cas clients et des petites choses où on peut créer du contenu avec un service com, ça peut aussi aider à alimenter cette partie client qui est un peu moins sollicitée. Ouais.
Et cette astuce du benchmark qui marche particulièrement bien dans le secteur du retail?
Ouais, aujourd'hui, oui. Alors, les clients dans le retail veulent du benchmark, ils se comparent. Hein. Aujourd'hui, on voit toutes les enseignes qui avancent sur plusieurs solutions digitales. Ils se comparent entre eux. On voit bien dans les salons, dans les salons professionnels, ils échangent entre eux pour dire bah tiens moi ça a marché, teste-le. Encore une fois, moi j'ai eu des clients où un Go Sport a testé une solution chez Dolmen et c'est par le biais de Go Sport qu'on a pu aller après voir Monoprix. C'est important de benchmarker et si ça marche, ça peut faire bouche à oreille auprès d'autres clients.
Donc s'appuyer sur un benchmark réussi pour aller décrocher d'autres contrats. Néanmoins, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt chercher à se différencier? Enfin, j'imagine que les interlocuteurs, même s'ils sont un peu dans la même famille, dans la même catégorie de métier, peut-être qu'ils ont besoin aussi de feeling.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que effectivement, le feeling, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a d'abord un travail qui est dans l'humain, parce qu'on rencontre les gens, on leur parle, on essaie de les convaincre. Et donc, tout ça fait que on est dans des discussions et qu'on a des feelings et que c'est beaucoup plus facile de discuter avec quelqu'un avec qui on a un feeling, de lui vendre quelque chose, de le conseiller, parce que y a sûrement un niveau de confiance qui s'installe entre les deux interlocuteurs. Et c'est ça qui permet d'avoir une bonne relation avec son client. Et effectivement, il faut se différencier des autres pour pouvoir être impactant et se dire qu'on va garder le monopole sur ce qu'on propose face à notre interlocuteur.
Il faut personnaliser, ouais. Ça c'est... tu as raison, Darina, il faut que ça soit personnalisé. Et les exemples que moi j'ai en tête, c'est que au-delà de l'aspect vente, il y a, comme le disait Chloé, il y a un vrai aspect conseil. C'est-à-dire que vous avez des clients en face de vous, souvent, quand c'est des responsables marketing digitaux, c'est des touche-à-tout. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas forcément tout de manière... ils ne sont pas excellents de partout, mais ils ont plein de projets à gérer. Et en l'occurrence, il y a un vrai rôle de conseil et vous leur apprenez plein de choses. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est quand j'ai travaillé pour Boulangerie Ange. La responsable marketing digitale était en poste depuis peut-être moins d'un an. Elle a appris plein de choses. Elle a appris plein de choses lors de nos échanges parce que c'était pas son métier à la base et ça l'a fait évoluer aussi. Donc il y a le fait d'être conseil et pas que de vendre absolument le service ou la solution. C'est comme ça qu'on crée aussi du lien. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi un peu à personnaliser le discours.
Et c'est en ça que les phases de découverte, par exemple, sont très importantes, parce que s'intéresser à son client, lui poser des questions sur son actualité, sur ses objectifs, hein, c'est derrière être capable de lui conseiller la meilleure solution pour son business.
Bah ça, c'est top, effectivement, ce que vous venez de dire, parce que OK, on a compris qu'en fonction de l'interlocuteur, on va pouvoir faire peut-être des use cases ou du moins savoir comment s'adresser avec quelle typologie d'interlocuteur, quel interlocuteur privilégié dans son portefeuille. Ça, on en a parlé. On a parlé aussi du fait d'être expert un petit peu sur sa verticale secteur aussi et verticale métier. Mais pour autant, l'interlocuteur qu'on va avoir en face de nous peut-être est aussi curieux d'en apprendre plus sur d'autres facettes de notre périmètre. Donc ça, c'est important aussi d'ouvrir un peu les chakras et de ne pas se cantonner à ce qu'on sait, de se dire, bon, bah, lui, le responsable marketing, on doit lui parler avec que de la créa, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et est-ce que vous pensez justement qu'il y a un lien maintenant entre le persona et son industrie ? Est-ce qu'on va parler différemment à, par exemple, un même directeur marketing, si je reprends cet exemple-là, dans le secteur du retail ou dans le secteur la déco, enfin, vous connaîtrez mieux que moi. Est-ce qu'il y a un lien justement entre l'intitulé de poste de la personne et son industrie ? Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver ?
Moi, je pense qu'il y a vraiment un lien entre l'industrie et le persona. Par exemple, chez VP, on est organisé aujourd'hui en vertical expert, c'est-à-dire qu'on soit commercial, merchandiser, créatif. On va travailler pour un secteur en particulier, donc la mode, la maison déco. La food, etc., parce que c'est des univers qui ont des codes différents, avec des clients qui n'ont pas les mêmes maturités en termes de communication. Si on prend un exemple tout bête, par exemple la banque versus la beauté, c'est pas du tout les mêmes codes, parce que déjà il y a des contraintes juridiques du côté banque qui sont assez importante, mais voilà, en fonction d'un secteur ou d'un autre, on communique pas de la même manière, et donc c'est en ça qu'il faut quand même connaître les spécificités de notre secteur pour bien cerner les problématiques. Et puis après, moi je vais plus dans les exemples que j'avais chez VP, sur le secteur de la maison déco dont j'étais responsable. Par exemple, aller voir une marque de bricolage et lui proposer de la communication et du média, c'est pas du tout le même accueil que une marque de déco qui a déjà l'habitude de faire ça. On va devoir être beaucoup plus dans le conseil auprès d'une marque de bricolage qui ne connaît pas encore ce type de service, versus une marque de déco qui elle communique déjà, où on va être beaucoup plus dans l'argumentaire parce que on a plus de concurrence finalement et ils connaissent déjà l'univers des médias.
Au niveau des, moi je pense aussi qu'il faut avoir des différenciations au niveau de l'industrie ou du secteur d'activité. Alors je vais reprendre un peu les exemples de Chloé, mais j'avais travaillé un projet pour Monsieur Bricolage. Et en parallèle, je vais mettre à nouveau le CIC Banque. C'est pas les mêmes types de clients, c'est pas les mêmes interlocuteurs, et on va avoir sur le secteur bancaire un discours peut-être plus lissé. Et ils sont au niveau de toute la partie juridique également, toute la partie RGPD, et sur la partie pour l'ancien Monsieur Bricolage, eux il y avait vraiment une approche pour faire jouer les clients, pour communiquer de manière un peu différenciante, ce que le secteur bancaire ne se permet pas forcément.
Ouais, il n'y a pas la même maturité, la même envie d'innover aussi.
C'est pas la même maturité. Alors pourtant, le secteur bancaire ont des sociétés. Il y a des sociétés dans la fintech qui font ça, mais c'est vrai que des banques qui ont pignon sur rue depuis pas mal d'années, on le voit, des discours assez proches les uns des autres et des méthodologies, des services juridiques qui font que bah, c'est plus verrouillé.
Et ça, il faut le respecter. En tant qu'account manager, il faut rentrer dans ces codes-là.
Là, il faut être force de conseil, mais tout en respectant aussi les codes d'une enseigne ou d'une marque. Et là, pour le coup, la banque, c'est compliqué de faire autrement.
C'est clair. Bon, bah, très riche, merci beaucoup. Donc, si j'essaye un peu de récapituler ce que vous m'avez dit, donc l'account manager, il va devoir s'adapter à différents critères. Bien évidemment, l'intitulé de poste de son interlocuteur. Après, son caractère qui va être défini par les schémas que vous avez identifiés. Type, voilà, pour reprendre l'exemple de Chloé, un directeur commercial va être beaucoup plus focus sur des KPI chiffrés versus un directeur marketing qui va être plus intéressé par la partie créa et inspirationnelle. Donc ça, c'est un deuxième critère. Et puis aussi, le troisième, c'est que l'account manager va devoir respecter les codes de l'industrie, du secteur d'activité dans lequel il va opérer. Donc, c'est important d'avoir ces trois composantes en tête pour avoir une bonne vision, une parfaite connaissance de son business. Et d'autant plus, j'imagine, pour vous, Raphaël et Chloé, dans le secteur du retail, parce que vous avez énormément d'interlocuteurs différents.
Tout à fait.
Ouais, tout à fait.
Du coup, bah, ça me fait penser à un débat que je n'ai pas encore enregistré, mais que j'ai en ligne de mire se demander si il faut que l'account manager soit spécialiste de son secteur d'activité pour bien faire son travail. Je pense que ça rejoint peu ou prou ce qu'on vient de dire, donc vraiment pour creuser sur ce sujet en particulier. Donc, je vous tiendrai au courant de l'avancée de l'enregistrement de ce débat.
Bon sujet, en effet.
Avec plaisir.
Trop bien.
Avec plaisir.
Eh ben, merci encore à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur les personas et je vous dis à très vite.
Merci Darina.
Merci Darina.
Salut.
À bientôt.